Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Philippe Corbet.
Bonsoir et bienvenue à tous dans RTL Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. À la une, Macron, Poutine sous le soleil de Brégançon. Le Russe est arrivé avec un bouquet de fleurs pour Madame Macron. Et voici la fleur que lui a tendue en retour le président français en l'accueillant. Il veut réarrimer la Russie à l'Europe.
Je sais une autre chose, c'est que la Russie est européenne. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok.
Référence au général de Gaulle qui parlait, lui, de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Dans un instant, nous serons au fort de Brégançon où les deux présidents sont toujours en train de s'exprimer. On aura bien besoin dans un quart d'heure de l'éclairage de Michel Tchalninov qui a écrit « Dans la tête de Vladimir Poutine ». Et on reviendra sur tout cela dans « On refait le monde » après 19h. Bonsoir Céline Landreau.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Simon Gauthier serait mort peu de temps après sa chute dans un ravin du sud de l'Italie. C'est ce qui ressort des premiers examens médicaux pratiqués sur le corps du jeune randonneur français, retrouvé hier 9 jours après son appel à l'aide. Une première plainte dans l'affaire des bébés sans bras, dont l'un, les parents de Louis, né sans doigt à la main droite, réclame l'ouverture d'une information judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui. Les orages ont fait des ravages dans le Beaujolais. Si les crues ont été épargnés. 150 producteurs de l'appellation ont vu leurs vignes dévastées par les grêlons la nuit dernière. Et puis enfin, ils s'en vont, ou quand la fin des vacances réjouit les locaux. Illustration à Marseille, à la fin de ce journal, où les habitants sont ravis de retrouver de la place sur leur plage. La bourse de Paris clôture en hausse ce soir, plus 1,22%. Le CAC 40 s'établit à 5372 points. Enfin, les courses à Châteaubriand, il fallait jouer le 4, le 16, le 9, le 12 et le 10.
À 18h25, votre programme télé. Après l'admi, alors que les travaux ont repris à Notre-Dame aujourd'hui, portrait de l'atypique Viollet-le-Duc qui lui avait donné un nouveau visage au 19e siècle en y ajoutant sa flèche aujourd'hui disparue. L'histoire de la marque Caisse d'épargne qui n'est pas sans lien avec celle de la radio dès les années 20. Et puis dans Laissez-vous tenter, un invité exceptionnel ce soir, Michel Polnareff, qui va nous parler de sa voix aiguë et incroyablement claire. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Aiguë également, moins que celle de Michel Polnareff, mais toujours incroyablement claire, la météo pour demain. Retour de la pluie et des orages, dès ce soir d'ailleurs, dans l'Est et le Sud.
Oui, nouvelle dégradation pluvieuse à partir de cette nuit surtout. On a déjà quelques averses près des Pyrénées en ce moment, mais c'est surtout à partir de cette nuit que les pluies vont s'intensifier. On va retrouver une bande pluvieuse entre les Pyrénées, le Massif central et les frontières de l'Est et surtout du côté des Alpes. Et attention, hein, activité orageuse encore assez marquée à partir de cette nuit. Forte pluie attendue notamment sur le département de l'Ariège qui est placé en vigilance orange. Et ce jusqu'à demain. Demain matin, toujours ces pluies sur le même axe. Et puis dans l'après-midi, ces pluies vont faiblir, mais le temps restera gris partout ailleurs. Là, les conditions météo seront plus clémentes avec de belles éclaircies. Les températures entre 8 et 22 degrés demain matin et entre 19 et 31 dans l'après-midi.
Et on y revient en détail juste avant 18h30.
RTL Soir.
Le maître du Kremlin est donc au fort de Brégançon. Emmanuel Macron vient d'accueillir Vladimir Poutine dans sa résidence d'été.
Le président russe est arrivé en hélicoptère il y a une petite heure sous le soleil et sous très haute sécurité. Julien Fautra, vous êtes l'envoyé spécial de RTL au fort de Brégançon où les retrouvailles entre les deux chefs d'État ont semblé particulièrement chaleureuses.
Oui, Céline, une fois l'hélicoptère posé dans l'enceinte du fort, cette poignée de main chaleureuse entre les deux hommes, un bouquet pour Brigitte Macron qui avait ôté son attelle au bras pour l'occasion. Emmanuel Macron très tactile avec Vladimir Poutine, le président russe plus distant, moins latin, disons-nous, mais qui a d'emblée confié au président français « It's a beautiful place », un bel endroit à propos du fort de Brégançon. C'est dans le jardin que les deux chefs d'État vont se promener dans quelques instants pour tête-à-tête sans les conseillers, ce qui est l'étape clé de cette rencontre. Les deux hommes ont pour habitude de se parler franchement. Ils s'installeront sur le Bel Air face à la mer. L'objectif est de trouver des terrains d'entente sur des sujets brûlants. Les deux présidents ont confirmé qu'ils auront ces discussions. Les situations en Iran, en Ukraine et en Syrie, ainsi que la question des droits de l'homme. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons dissiper tous les malentendus qui se sont installés depuis les années 90, a conclu Emmanuel Macron devant la presse il y a quelques secondes.
Julien Fautra en direct du fort de Brégançon pour RTL.
Julien qui ne parle pas trop fort parce que les deux présidents donc sont toujours en train de parler à Brégançon. Les deux présidents qui sont tout de suite entrés dans le vif du sujet.
Avec effectivement cette première déclaration commune. Quelques minutes seulement après l'arrivée de Vladimir Poutine. L'occasion, comme le disait Julien, d'esquisser les principaux sujets qui seront au cœur de cette rencontre bilatérale. La situation en Ukraine, bien sûr, mais aussi la Syrie. Emmanuel Macron a déjà réclamé le respect du cessez-le-feu à Idlib. Vladimir Poutine lui a répondu que la Russie soutient l'armée syrienne contre les terroristes. Mais au-delà de ces désaccords déjà affichés, le président français a aussi pris soin de flatter son homologue et la Russie, qui a toute sa place, selon lui, sur la scène européenne.
Notre ordre international vit un moment absolument historique. Et dans ce cadre, la relation de la France et de la Russie, de la Russie et de l'Union européenne, est absolument déterminante. Je sais tout ce qui a pu nous séparer, les malentendus des dernières décennies. Je sais aussi les débats qu'il y a sur la relation avec l'Occident. Je sais une autre chose, c'est que la Russie est européenne, très profondément. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. Ce à quoi je crois, c'est que nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie, qui est de définir les nouvelles menaces telles que nous les voyons et les partageons, de définir un agenda commun et de réussir à construire des méthodes d'action, de désescalade et de sécurité commune, compte tenu de notre voisinage.
Emmanuel Macron qui annonce par ailleurs qu'il se rendra en Russie en mai prochain. Le président français participera au 75e anniversaire de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie.
Alors est-ce que ce message, la Russie européenne et plus généralement les premières déclarations du président Macron sont de nature à ravir le président Poutine? On en reparlera dans moins de 10 minutes maintenant avec notre invité qui a écrit le livre Dans la tête de Vladimir Poutine. Dans l'actualité également, l'arrivée plus rapide des secours n'aurait probablement rien changé pour le français Simon Gauthier.
La dépouille du jeune randonneur a été extraite ce matin du ravin dans lequel il avait été retrouvé par les secouristes italiens, puis transféré à l'Institut médico-légal de l'hôpital de Sapri au sud de l'Italie. C'est là que ses parents ont pu identifier formellement leur fils. Là aussi que de premiers examens médicaux ont été pratiqués. Bonsoir Anne Lenir.
Bonsoir.
Et d'après leurs résultats, la mort du jeune français a été très rapide.
Oui, le médecin légiste de l'hôpital de Sapri a constaté l'état de décomposition très avancé du corps du randonneur qui aurait fait une première chute, puis une seconde à une profondeur de plus de 10 mètres. Il a aussi constaté de graves fractures aux jambes, dont une ouverte qui a sectionné l'artère fémorale. D'après les premiers éléments de l'autopsie, Simon Gauthier aurait donc succombé à une hémorragie entre 45 et 50 minutes après son appel au secours d'urgence. Selon ce que m'a confié le commandant des carabiniers de Policastro, Antonio Neosi, qui suit l'affaire depuis le 9 août, cela expliquerait pourquoi le portable du jeune homme ne répondait pas. Nous avons tenté de le joindre à plusieurs reprises, peu après son appel, a-t-il assuré. Cela dit, je rappelle qu'une enquête judiciaire a été ouverte pour vérifier d'éventuels retards et carences dans les secours et les technologies pour localiser un portable éteint ou déchargé.
Anne Lenir, correspondante de RTL en Italie.
C'est la première plainte déposée dans l'affaire des bébés sans bras. Une famille de l'Ain réclame l'ouverture d'une information judiciaire.
Les parents de Louis, né sans doigt à la main droite, refusent de se satisfaire de l'enquête de Santé publique France. En octobre, l'organisme n'avait identifié aucune cause expliquant ces malformations et estimé par ailleurs qu'il n'y avait pas d'excès de cas dans le département de l'Ain. Un comité scientifique a ensuite tiré les mêmes conclusions. La famille de Louis a donc décidé de se tourner vers la justice pour mener les investigations nécessaires, Frédéric Perruche.
Eh bien, Axelle Lessie, la maman de Louis, 6 ans et demi, né sans doigt à la main droite, veut savoir pourquoi son fils est né handicapé, lui et sept autres enfants de la Dombe. Les pesticides, l'eau, les rejets industriels, aucune réponse des autorités sanitaires, pas d'enquête sérieuse ouverte. C'est ce qui motive cette plainte.
Pour savoir, pour moi et mon fils. Et j'ai envie de me battre. On ne sait pas du tout, on sait juste qu'on est plusieurs sur un périmètre restreint et c'est tout ce qu'on sait.
Pour vous, il y a quelque chose. Vous imaginez pas que ça soit du hasard.
Pour nous, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose, oui, effectivement.
La famille demande l'ouverture d'une information judiciaire avec la nomination d'un juge du pôle de santé de Marseille, indépendant, spécialiste de ces questions sanitaires et disposant de moyens d'investigation car les questions sont nombreuses, selon Fabien Rajon, l'avocat de la famille Lessie.
Y a-t-il, oui ou non, des difficultés sanitaires, environnementales sur les nappes phréatiques? Y a-t-il des difficultés sur les réseaux d'assainissement et les réseaux de distribution des eaux? Notre souhait, c'est que la justice se saisisse de cette question.
La plainte a été enregistrée la semaine dernière. On saura dans les mois qui viennent si un juge d'instruction est nommé ou pas.
Frédéric Perruche pour RTL.
C'est une première en France. Le CHU de Nice s'est doté cet été d'une ceinture anti-moustique.
Un dispositif déployé autour de l'hôpital pour repousser le moustique tigre, désormais présent dans la moitié des départements français et qui peut transmettre des maladies infectieuses. L'hôpital niçois a donc décidé de prendre toutes les précautions, Mickaël Lefebvre.
Oui, depuis la mi-juillet, 58 pièges à moustiques ont été déployés autour d'un bâtiment accueillant des patients fragiles, atteints de cancer ou de maladies du sang. Une barrière invisible, mais qui diffuse une odeur redoutable pour ces insectes, comme l'explique Dominique Hopman, le PDG de la société Dipteratech, qui a développé ce procédé.
Chaque piège disposé tous les 5 mètres va diffuser donc le CO2 et les acides, leurrer les moustiques, les attirer. Ils vont s'approcher de trop et être aspirés par des ventilateurs inverser, mourir de déshydratation dans les filets.
Apparu en 2004 en France et dans les Alpes-Maritimes, le moustique tigre n'a eu de cesse de proliférer. Il peut être porteur de maladies infectieuses graves comme la dengue, le zika ou le chikungunya. Le docteur Pascal Delaunay, entomologiste médical au CHU de Nice.
Ce piège permet à la fois de protéger les patients fragiles et d'empêcher de transmettre le zika, le chikungunya aux patients infectés. C'est le principe de ce moustique tigre qui, dans le département des Alpes-Maritimes en France, n'a pas naturellement le virus. Mais bien sûr, s'il pique quelqu'un qui a le virus, il va l'attraper et le donner peut-être à quelqu'un d'autre.
Très efficace, la ceinture BioBelt diminue quasiment de 100% les piqûres de moustiques. Et contrairement aux insecticides, elle n'est pas nocive pour l'homme.
Mickaël Lefebvre à Nice pour RTL.
RTL Soir, 18h11, la suite du journal. Céline Landreau, Philippe Corbet.
Des vignes ravagées à quelques semaines des vendanges. On a vraiment assisté à des scènes de désolation dans le Beaujolais.
Les orages de grêle ont provoqué d'importants dégâts la nuit dernière pour près de 150 producteurs. La récolte est très compromise, surtout dans le sud du vignoble, comme l'explique Dominique Piron, président de l'interprofession des vins du Beaujolais.
Ben, les orages sont passés au sud du Beaujolais, la partie sud, donc c'est l'appellation Beaujolais. Les crues n'ont pas eu du tout de grêle, ni les Beaujolais villages. L'orage était assez grand, ça a plutôt marqué un couloir de 3 ou 4 kilomètres de large entre Tarare et Villefranche. Un tiers d'appellation Beaujolais est touché entre 20 et 50%. C'est très inégal. Pour certains, c'est la cata, c'est une année de travail sans salaire. Donc c'est vrai que ça crée un peu d'émotion, ça crée un peu de colère, c'est certain.
Est-ce que les producteurs sont assurés ?
Sur le sud du Beaujolais, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Lorsqu'on avait eu des orages de grêle en 2016 et 2017 dans le nord du Beaujolais, dans les crues, on s'était rendu compte que seulement un tiers des gens étaient assurés. Donc là, je pense qu'on est à peu près dans le même cas de figure.
Le président de l'interprofession des vins du Beaujolais, joint pour RTL par Virginie Garin. Ce soir, un autre département, l'Ariège, est placé en vigilance orange, cette fois pour de fortes pluies. D'importantes précipitations sont attendues dans la nuit et demain.
Vous le sentez là, le léger parfum de la rentrée qui commence à faire sentir, surtout pour Céline Landreau qui revient de vacances aujourd'hui. Mais sachez Céline que ça ne déplaît pas à tout le monde.
Ben oui, Philippe Cacrame, chaque année, l'après 15 août rime avec la fin des congés pour de nombreux vacanciers. Les touristes se font plus rares. Un soulagement souvent pour les locaux qui retrouvent ainsi un quotidien un peu plus paisible. Illustration sur la plage des Prophètes à Marseille, Samia Belbachia.
Oui, ça commence à se sentir sur la route, sur les plages, et ce n'est pas pour déplaire aux habitants du coin.
On commence à se réapproprier nos endroits fétiches, notre sud à nous, quoi. Ça fait plaisir.
C'est hyper cool parce que depuis, je ne sais pas si c'est depuis le 15 août ou pas, mais il y a de la place partout, enfin, ne serait-ce que pour se garer, c'est hyper agréable en fait.
Les commerces commencent aussi à sentir la fin des vacances. Chèques et serveurs dans un restaurant en bord de mer.
Il y a moins de réservations et c'est vrai qu'on le ressent un petit peu dans le resto et même dans la ville. Il y a moins de monde et on sent que c'est bientôt la fin des vacances.
Eh oui, bientôt la fin de l'été. Et justement, pour certains, c'est le moment idéal pour partir en vacances.
Je savais qu'il allait avoir moins de touristes à la fin du mois d'août. C'est pour ça que je suis venu à Marseille exprès, quand tous les Parisiens et tous les touristes sont rentrés chez eux. Comme ça, j'ai la mer, la plage pour moi tout seul et je suis entouré de Marseillais, donc c'est trop bien.
Ça tombe bien pour ce touriste parisien, il va faire beau et chaud toute la semaine à Marseille et dans la région.
Ils ont de la chance, Samia Belbachir à Marseille, donc pour RTL.
Merci Céline, vous revenez à 18h30, vous ne perdez pas les bonnes habitudes.
Non, je reviens, c'est promis. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL Soir avec Philippe Corbet, 18h13.
À tout de suite, Macron, Poutine, en ce moment à Brégançon. Comment faut-il parler au président russe, notre invité Michel Elchaninov, qui est l'auteur du livre « Dans la tête de Vladimir Poutine ». On parlera aussi de la situation du président russe en Russie, dans son pays, car il affronte ces dernières semaines des manifestations, la vague de protestation la plus importante depuis plusieurs années. Et voici ce que vient de dire le président russe. Il ne veut pas, je cite, d'une situation telle que celle des Gilets jaunes. Voilà ce qu'il a dit devant le président Macron. On parle de tout ça dans un instant.
RTL Soir.